Idée à lire, les coups de cœur de Laurence, des rencontres avec des auteurs, des lecteurs et pas que. Le deuxième vendredi du mois à 11h sur nos ondes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission d'Idées à lire en ce mois d'octobre 2018. Donc pour parler de ma sélection des coups de cœur du mois, je vais commencer vous parler de ma sélection concernant la biodiversité, l'écologie, et j'aurai l'occasion d'interviewer donc une personne du comité d'organisation de la foire bio de Bourg. Et puis ensuite, j'évoquerai avec vous le festival de bande dessinée qui a eu lieu à Viria il y a à peu près une semaine, enfin même deux semaines maintenant. Donc pour commencer, je vous parle d'un livre qui s'appelle « Biodiversité, fais-la toi-même ». C'est un petit guide qui comprend 50 recettes faciles pour agir. C'est plus des conseils de bon sens, plus pour le jardinier certes, mais aussi pour toute personne qui a envie de bien faire et réduire son gaspillage, faire en sorte de faire quelques économies qui sont aussi positives pour la planète. Et dans ce petit ouvrage, on trouve particulièrement des choses donc sur la nécessité de bouturer et de faire fabriquer, enfin, ou du moins récupérer plutôt, ses propres graines. Et c'est la thématique de la 8e foire de bio de Bourg qui a lieu donc le 28 octobre et qui est précédée par une rencontre à la tannerie, une projection donc qui s'appelle « Semences du futur ». Donc j'ai invité Rachel, qui fait partie du comité d'organisation de la foire bio de Bourg, à venir nous en parler. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Alors dis-nous tout sur cette première date. Donc quand est-ce qu'a lieu cette projection à la tannerie sur « Semences du futur »
Elle a lieu le 17 octobre, le mercredi, à 20h,
oui.
À la tannerie.
Oui.
Voilà, un lieu que tu connais bien, je crois.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, ça va donner lieu aussi à une discussion, je crois, après
Oui, il y a le coproducteur, je crois. Enfin, je n'ai pas très bien tout suivi. Hein. J'en saurai mieux le jour J, je pense.
Comme
qui s'appelle Gérard Boinon. Le film est d'Honorine Perrino. Mm-hmm. Ce n'est pas son premier film. Je crois qu'elle a déjà réalisé plusieurs films sur l'agriculture. Et là, le thème, c'est les semences. Le film s'appelle « Semences du futur ». Et ce monsieur, Gérard Boinon, donc coproducteur, co-réalisateur, je pense aussi, viendra animer un débat sur la thématique des semences.
D'accord. Donc on attend beaucoup de monde à cette projection et pour animer aussi le débat par la suite, parce que c'est très important. On voit dans l'actualité quand même pas mal de choses qui se passent au niveau des semences, de nouvelles lois qui pourraient voir le jour par rapport à ces échanges plus libérés de semences. Et donc vous avez choisi aussi cette thématique-là pour donc la 8e foire bio de Bourg qui a lieu le 28 octobre sous le marché couvert.
Oui, en effet, on a choisi la thématique des semences, de la biodiversité, des graines, donc, au sens large, hein, pas seulement la reproduction de semences, mais aussi comment faire ces graines, comment faire germer ces graines, la présence des graines dans l'alcool, plein de choses comme ça.
Ah, conserver des graines dans l'alcool ?
Non, pas conserver des graines, mais quand tu fais de l'alcool à partir de graines.
Oui, d'accord.
Tu vois, la distillation, ce genre de choses.
D'accord. D'accord, non mais tu vois, j'y avais pas du tout pensé et pourtant c'est vrai, je crois qu'un certain nombre d'alcool quand même se fait à partir de graines et pas seulement de différentes plantes forcément. Donc effectivement, oui, voilà. Alors à la foire bio, c'est pas que des exposants ?
Non, alors il y a un certain nombre de producteurs qui viennent donc présenter ce qu'ils font et vendre, dont je fais partie d'ailleurs. Je suis moi-même maraîchère bio à Marbeau. Donc des gens de l'Ain, du département en général, qui viennent donc vendre leur production. Ça peut être de l'alimentaire, ça peut être autre chose. Il y aura de la vannerie, il y aura tout un tas de personnes.
Oui.
Il y aura un espace enfant et puis, comme d'habitude, un chapiteau avec des conférences qui dureront toute la journée du dimanche. Donc ce sera le dimanche 28 octobre.
D'accord. Est-ce que tu as déjà les thématiques des conférences ?
Alors, les thématiques des conférences, je ne les connais pas par cœur. Je fais partie du comité d'organisation, hein, mais c'est la première année que je fais ça, alors je ne suis pas encore tout à fait au point. L'année prochaine, ce sera mieux pour la 9e, ça va être...
Oui, mais c'est la première fois que le comité d'organisation quand même communique vraiment sur l'événement et sur nos ondes, et on est très très touchés de cette participation-là.
Alors, il y aura au moins 3 conférences, une d'un botaniste qui connaît bien les graines, surtout les graines à l'étranger, qui viendra présenter des graines et des hommes, voilà. Traite des relations subtiles, parce que tu as des graines aussi dans les instruments de musique, bien sûr, depuis très très longtemps, dans les bijoux, voilà. Il y a une personne du réseau Solimance, du réseau Semences Paysannes, Martine Delomo, pour ne pas la nommer, qui viendra faire une conférence le matin. Ce sera un petit peu pointu sur... elle présentera le travail du musée du Revermont.
Oui, donc elle était la conservatrice du musée du Revermont. Maintenant, elle est sur Carab, sur son association Carab, pour proposer des stages, effectivement.
Et l'après-midi, en début d'après-midi, il y aura une table ronde qui demandera à des personnes qui sont impliquées dans la reproduction et la sélection et la conservation de semences paysannes de venir partager leurs expériences avec le public.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est tout au long de la journée. Il y a un lieu de restauration aussi ?
Oui, il y aura à manger, à boire.
Non, mais du coup, ça m'intéresse parce que quand on propose, effectivement...
Il y a un espace enfant aussi.
Oui,
Et des petites animations.
Oui, ça, c'est très important aussi.
Il y a une
personne
qui va venir présenter la lactofermentation. C'est elle qui présentait les produits ménagers l'année dernière.
D'accord.
Alors, elle sait tout un tas de choses. Donc, apparemment, c'est une pointure en lactofermentation. Et donc les kéfirs, la choucroute, tout ça, elle fera des petits ateliers auxquels les gens pourront participer. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre, elle ? Je crois que c'est que ça, cette année. Sinon, il y aura un atelier vannerie, une initiation aux graines germées, il y aura un groupe de musique, les Brassicoles.
D'accord.
Ils vont chanter des reprises de Brassens, je crois. Voilà. Et puis cette année, surtout, il n'y aura pas... La sono épouvantable qu'il y a d'habitude, c'est-à-dire un haut-parleur qui parle, on n'entend rien, on ne comprend rien. Là, il y aura des crieurs qui vont venir mettre un peu de fantaisie dans la foire.
D'accord. Et donc, ça commence à quelle heure le matin ?
Ça commence à 9h, je crois.
Ah oui, donc il faut quand même un peu se lever tôt, on oublie la grasse mat. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas toujours...
9h-18h.
D'accord, 9h-18h, très bien. Donc ça sera un beau rendez-vous pour notre fin du mois d'octobre. Donc, des animations pour les enfants, comme tu le disais, ça touche donc tous les publics, y compris les familles.
C'est
essentiellement
gratuit.
Les familles, c'est gratuit. De quoi se cultiver et s'informer. Tu parlais de kéfir, c'est avec moi, partout, j'entends parler de kéfir. Et j'ai l'impression que tous les gens qui boivent du kéfir, tu sais, ils sont tous, passionnés par toutes ces petites levures qui sont donc dans leur boisson. Ils s'y attachent énormément comme un animal de compagnie. Je ne sais pas toi si tu en fais.
Écoute, je ne savais même pas que ça existait. Mais là, je lis, pour remettre de l'ordre dans votre organisme, réensemencer naturellement votre flore intestinale, renforcer votre système immunitaire, apporter de nombreuses vitamines et minéraux. Bon, enfin, je ne lis pas tout, quoi. C'est déjà bien...
Oui, non, mais tu vois, ça recoupe vraiment ce que je dis en général. C'est qu'on est vraiment des planètes à nous tout seuls, habitées par plein de micro-organismes. Oui. Et ça, le kéfir vient nous aider effectivement à combattre plein de virus aussi pour l'hiver. Donc ça, c'est très, très important. Et ça fait donc partie aussi d'une certaine biodiversité.
Et en plus, c'est bon, je pense.
Oui, alors après, tout le monde n'est pas de cet avis-là. Il en faut pour tous les goûts.
Ouais.
Mais c'est à tester en tout cas. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi de pouvoir le faire soi-même. J'ai une amie qui m'expliquait qu'on pouvait l'obtenir gratuitement dans les magasins bio. Ils en avaient et ils l'offrent gratuitement. Et après, c'est à nous de faire en sorte que tout cela vive.
D'accord.
Donc, et de filtrer, de s'en occuper. C'est un soin quotidien pour avoir son verre de kéfir.
Déjà le mot kéfir.
Hein? Ouais, on voyage un peu, c'est ce que tu veux dire.
Non, je ne sais pas, ça fait un peu magique, un peu kéfir.
D'accord. Ok, très bien. Mmh. Donc toi, on te retrouve tous les mercredis, en tout cas, sur le marché.
Mmh.
Voilà, tu fais partie du gars avec des oiseaux.
Ouais, j'ai créé cette activité il y a presque 2 ans.
Oui.
Voilà, après avoir cherché longtemps le lieu.
Oui. Et donc, tu es particulièrement sensible à cette question des semences ?
Oui, sensible, oui. Sensible dans la mesure où, comme je l'ai dit, je suis maraîchère. Je produis déjà mes plants, c'est-à-dire que j'achète en fait les semences et je produis mes plants. Ce que peu de maraîchers font, parce que c'est quelque chose d'assez gourmand en temps. Et dans la table ronde, on verra que faire ces semences, c'est presque économiquement pas viable pour un maraîcher, parce que ça demande beaucoup de place, d'organisation et de temps. Et un savoir aussi, il faut se former, c'est compliqué. Par contre, c'est vraiment très attirant.
Oui.
Pour l'autonomie que ça peut procurer, et puis parce que ça paraît logique, en fait, de produire ces semences sur le lieu où on cultive, pour des raisons de climat, tout simplement, et de nature du sol.
D'accord.
Voilà.
Moi, j'ai des souvenirs assez émus et heureux des fois où je suis venue vous voir sur votre exploitation avec ton conjoint et où je vous ai aidé sous la serre.
Oui.
Et j'ai adoré. Et c'est vrai que faire... il y en a même une autre qui réagit là-bas. Mmh. C'est Pauline, notre technicienne, qui était aussi.
Mmh.
On a eu vraiment le plaisir de mettre les doigts dans le terreau et de rempoter quelquefois les jeunes plants. Donc, c'était un moment très, très agréable. Et ça rien que ça, c'est ce que tu devrais faire finalement sur ton stand pour donner envie à tout le monde de faire ses propres semences et d'échanger aussi les semences pour asseoir une diversité des cultures et une diversité qui reste locale et avec des espèces qui ne sont pas des espèces invasives.
Ouais, moi mon rêve ce serait effectivement de faire un stand un peu comme le partage de livres, là, ce serait le partage de graines, quoi. Parce que j'ai beaucoup de clients qui sont eux-mêmes jardiniers. Et tu évoquais tout à l'heure les nouvelles réglementations concernant la circulation des semences. Je sais pas si ça va vraiment se faire, hein. C'est vrai qu'on rêve un petit peu, on a tellement envie que ça se fasse que... Voilà. Après, j'y connais rien. Déjà, j'y connais rien en droit. J'essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui se trame en ce moment. De toute façon, c'est tout nouveau pour moi, donc je peux pas vraiment en dire grand chose. Mais voilà, c'est un rêve. Ça reste un rêve pour le moment. C'est-à-dire produire ces semences et les partager avec des personnes qui cultivent dans le même bassin que moi, dans le même coin que moi, qui ont à peu près la même terre, le même climat.
Espérons que toutes ces tables rondes cette projection avec ce professionnel qui a donc planché sur la question des semences nous apportera donc des réponses par rapport à la réglementation qui devrait être mise en place ou qui est peut-être déjà mise en place, vu qu'il y a un flou là-dessus, on ne sait pas. Mmh. Et puis, j'espère aussi que tout ça nous amènera à réfléchir vraiment avant peut-être d'acheter nous-mêmes nos propres... d'acheter nos petits sachets de semences chaque année et puis, au contraire, essayer de créer du lien avec les autres personnes en échangeant. Mmh. Vraiment, je crois que c'est ce qui manque un petit peu des endroits, enfin en fait je dis que ça manque, mais ce n'est pas vrai, il y a quand même des moments, des événements sur Bourg où on peut échanger justement ces semences, où on peut, ne serait-ce que dans les fêtes de plantes rares, on peut trouver le moyen d'échanger des plants ou des semences, donc il y a peut-être une visibilité qui manque à tous ces événements et ça serait pas mal que la Foire Bio mette peut-être ça en exergue pour que ça soit davantage visible. Mm-hmm. Je crois que tu es venue avec un titre à nous faire écouter.
Oui, ça n'a rien à voir avec les semences, c'est juste un titre que j'aime bien.
Ouais, mais c'est parce que je te l'ai demandé aussi, parce que j'aime bien découvrir un petit peu l'univers musical de mes invités. Donc, c'est un titre de Toumani Diabaté, Jaradi.
Ouais, un Malien qui joue de la kora, comme trois personnes en même temps.
D'accord. Ouais. Donc, on va l'écouter. Et puis, en tout cas, ben, moi, je te remercie d'être passé, de nous avoir parlé de la foire bio. Et puis de la projection du film un peu donc en avant-première de cette foire bio. Et on te retrouve donc tous les mercredis sur ton stand au marché du côté bio, donc sous le marché couvert. Voilà. Et puis à la foire bio, bien évidemment.
Bien évidemment. Merci beaucoup, Laurence.
Merci beaucoup, Rachel. C'était donc un titre de Toumani Diabaté, Jaradi, que nous avait confié Rachel. Maintenant, je vais vous parler de la terre, mais sous un autre aspect, puisque je suis allée au festival de la bande dessinée de Viria, le premier festival, c'était donc il y a à peu près 2 semaines, et j'ai rencontré un auteur de jeunesse, donc une illustratrice qui s'appelle Isabelle Charlie. Je me suis beaucoup intéressée à un de ses ouvrages qui s'appelle Les voisins d'en dessous, et je trouve qu'il est particulièrement dans la thématique de cette fin de mois d'octobre sur donc la Toussaint. Alors, les illustrations prennent beaucoup de place, le texte forcément un petit peu moins, mais il amène à des questionnements sur donc ce qu'on peut voir sur les illustrations. Donc on est d'abord capté par le titre et l'illustration, parce que les voisins de dessous, le titre s'appelle Les voisins d'en dessous, ce sont ceux enterrés, c'est-à-dire les morts, hein. Et c'est un livre intéressant pour aborder la question de la mort avec humour et non sans s'intéresser aussi aux rituels dans chaque coin du monde concernant donc la mort. Donc effectivement, on fait référence aux morts du Mexique avec la fête des morts qui est extrêmement populaire et qui est une vraie fête assez joyeuse. On fait référence même à la mort de façon plus intime, la mort de son animal de compagnie. Tout ça avec des illustrations d'une très belle qualité, puisque l'illustratrice m'a confié qu'elle avait récupéré des dessins, des schémas de squelettes dans des ouvrages de médecine pour les besoins de son œuvre. Cela en fait donc un dessin plein de détails et elle les a récupérés avec beaucoup d'humour, ce qui éveillera donc petits et grands sur la question de la mort et de la mort donc à travers les rituels, les différents pays, les différents continents, et les différentes époques. Donc bien sûr il y a des textes, quelquefois ce sont simplement des phrases qui accompagnent l'illustration et elles sont pleines d'humour, mais en lien forcément avec l'illustration. Donc je peux vous en lire quelques-unes. Au Sahara, l'éternité c'est long, tout simplement parce qu'il y a un squelette qui a une clepsydre dans la main et qui est en train de voir s'égrener le sable donc dedans. En Provence, la partie de cartes se poursuit au frais, donc le frais étant le frais de la tombe. Au Mexique, les voisins d'en dessous font des farces. Au Ghana, on peut réaliser son rêve, vivre son dernier sommeil dans une bouteille de whisky. Au pôle Nord, personne ne vous réveille de votre hibernation. Voilà, donc ce sont des petites phrases comme ça qui permettent de trouver de l'humour sur cette thématique donc qui fait mouche en cette fin du mois d'octobre. Donc c'était le livre « Les voisins d'en dessous » d'Isabelle Simon et Isabelle Charlie, un livre que moi j'ai acheté pour mon petit-neveu de 8 ans, pour évoquer avec lui ce moment-là et cette fin de cycle.
Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idées à lire.
Le prochain livre de ma sélection est un livre qui a aussi encore une référence avec la mort, peut-être, ou du moins un profond sommeil. Il s'agit du titre « Ne m'appelez pas Blanche-Neige ». Alors, « Ne m'appelez pas Blanche-Neige », c'est un ouvrage de Gali l'auteur, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Blanche et qui découvre avec stupéfaction la relation entre son père et sa meilleure amie. Donc elle n'arrive pas à trouver refuge non plus auprès de son petit ami qui n'est avec elle que par intérêt. Donc Blanche se retrouve un peu à la rue ce soir-là et elle va rencontrer une vieille femme qui lui propose une soirée gratuite dans un bar. Les rencontres qu'elle fera ce soir-là vont la marquer à jamais. Donc derrière la reprise du conte de Blanche-Neige, derrière le conte de fées moderne que vit la jeune fille, on perçoit quand même le roman d'apprentissage puisqu'on est face à un roman de young adulte. Et il y a certaines étapes que l'on retrouve, comme quitter ses parents pour se faire sa propre expérience de la vie. Parfois, c'est un peu mièvre, surtout à la fin. Mais le roman n'en est pas moins intéressant par rapport aux valeurs qu'il véhicule. Donc je vous lis un passage de cette œuvre qui s'appelle donc « Ne m'appelez pas Blanche-Neige » de Galy l'auteur. « À travers la ville, je la cherche. Il n'y a qu'un endroit où j'ai une chance de la trouver. Un seul endroit. C'est un petit parc où nous aimions réviser et faire notre jogging le matin. » Elle est là. Je m'en veux d'avoir mis du temps à comprendre qu'elle aussi avait cet amour immense dont elle ne pouvait pas me parler. Sur le petit pont du parc arboré, éloigné de la foule, caché des passants, elle regarde ses pieds se balancer au-dessus de l'eau tranquille. À mon arrivée, elle me sourit tristement. « Moi et ton père, c'est fini, » m'annonce-t-elle. « Tu sais, je ne voulais pas. J'ai lutté pendant des semaines contre cet amour qui n'était pas celui que je souhaitais, celui que tu pouvais accepter. » Je sais. Je n'avais pas calculé tout ça, j'ai essayé de te le dire, mais je n'y arrivais pas. Je m'assois à côté d'elle et sans un mot, nos épaules se touchent. Je sais, répétais-je. Derrière chaque personne se cache un cœur en attente, un cœur en souffrance, un cœur en devenir. Je n'avais pas compris toute l'histoire, je n'avais jamais fait attention aux sentiments des gens qui m'entouraient. On ignore souvent les nains ou la reine lorsqu'on lit l'histoire de Blanche-Neige. Pourtant, ils sont eux-mêmes des êtres qui grandissent dans la découverte de leurs sentiments. Et moi, ai-je dormi tout ce temps? Dans mon cercueil de verre, j'ai caché mon âme et mes sentiments, espérant observer les événements de loin sans en faire partie. Mais, moi aussi, je dois donner un sens à ma vie et accepter les sentiments des autres. C'est grâce à mes amis que j'ai compris qu'on ne peut pas juger le cœur et les secrets d'autrui. Et c'est grâce à ce que je ressens pour Rob que je comprends que lutter contre ces sentiments est si difficile. Laurine, peu importe ce que tu décideras de faire, je veux que tu saches que je t'aimerai toujours. Avec un hochement de tête, elle me sourit à travers ses larmes. Sa tête se pose sur mon épaule. « Blanche, tu as changé. Je crois que j'ai grandi un peu et mon cœur aussi. Ton cœur a toujours été immense, c'est le cœur d'une princesse, peut-être même, dit-elle en souriant, celui d'une fille amoureuse. » Je souris à mon tour. « Oui, peut-être celui d'une fille amoureuse. Nous restons ainsi assez longtemps, proches l'une de l'autre, même si nous savons que nous devons aussi apprendre à évoluer chacune à notre manière à présent. » C'était donc un extrait de « Ne m'appelez pas Blanche-Neige » de Galy l'auteur, un ouvrage qui est conseillé donc aux adolescents, donc à partir de 13-14 ans. Je vais maintenant vous faire écouter un de mes titres préférés du moment, « The Too Many Monkeys, Since Feeling Is First ».
Since feeling is first, I won't give up, and I'll wrap my arms around you. Since feeling is first, I won't listen to a soul, and I'll keep on doing exactly what I want to do. And people tell me that I cannot win, but they don't know how much my heart doesn't care. And people tell me it's a waste of time, but time doesn't matter anymore. Because I wouldn't lie, no, I wouldn't lie just to be with you. And love isn't something that I can fake, it's a mistake that Cupid made. Since feeling is first, I will kiss you when I want to, even when it makes my world collapse. And people tell me that I cannot win, but they don't know how much my heart doesn't care. And people tell me it's a waste of time, but time doesn't matter anymore. be where you.
Nous nous retrouvons après ce magnifique titre de Too Many Monkeys, Since Feeling Is First. Et nous allons maintenant parler d'un autre roman jeunesse qui s'appelle La carotte et le bâton de Delphine Pessin. Donc c'est un roman jeunesse très agréable à lire, à deux voix. On découvre ce qu'est le harcèlement, une situation anodine au départ qui dépasse assez vite les adultes et prend des proportions énormes. Un livre qui révèle un certain militantisme pour la différence et contre toute forme de rejet de l'autre. Bravo à l'auteur. Donc c'est une jeune fille qui, parce qu'elle a cheveux roux, se fait vite rejeter de sa classe et de l'établissement tout entier. Je vous lis un passage de La carotte et le bâton de Delphine Pessin. Ni de frelons. Le lendemain, quelque chose d'étrange est arrivé. Dans la cour, les filles murmuraient sur mon passage. Quand j'essayais d'accrocher le regard de l'une d'elles, celle-ci se détournait immédiatement. Les garçons me fixaient avec un air railleur, Johnny en particulier. Il portait un jean taille basse qui laissait dépasser son caleçon et une casquette qu'il gardait en permanence, rechignant à l'ôter même pour les cours. Il avait déjà redoublé deux fois et faisait partie de ces élèves décrocheurs qui gardent la place du fond avec un air flegmatique. Il m'impressionnait et je ne lui avais jamais réellement adressé la parole, tant il est facile de vivre dans la même classe et de mener des existences parallèles. J'étais donc étonnée et un peu inquiète de voir l'intérêt qu'il me portait ce jour-là. « Tu sais ce qui se passe ?» soufflai-je à Chloé, tandis que nous entrions dans la salle des sciences. « Non, je ne sais pas, » fit-elle, mais elle évitait mon regard. « En place, les filles, on ne traîne pas. » Monsieur Ravenot ne me laissa pas le temps d'en savoir davantage. Le cours portait sur la formation des roches sédimentaires et j'eus bien du mal à rester concentrée. Mes pensées vagabondaient, je n'arrivais pas à les fixer. Toute la semaine, j'ai gardé la sensation désagréable d'être épiée. Qu'est-ce qu'ils mijotaient tous ? J'allais devenir parano. Le vendredi, en sortant du self, Johnny s'exclama suffisamment fort pour que je l'entende. « Tu sais que les rousses sentent mauvais ?» Un nœud coincé dans la gorge, j'ai senti la chaleur m'envahir d'un coup. « Carotte !» triompha-t-il. Cette fois, le doute n'était plus possible. J'étais au centre de quelque chose qui m'échappait. Voilà, c'est donc un extrait de La carotte et le bâton de Delphine Pessin, donc un roman jeunesse.
Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idéalire.
Je vous disais tout à l'heure au début de l'émission que j'étais allée faire un tour au festival de bande dessinée donc de Viria, le premier festival de cette envergure-là et puis sur ce genre donc à Bourg-en-Bresse. J'y ai rencontré un auteur qui s'appelle Olivier Marin et je lui ai acheté une bande dessinée qu'il m'a gentiment dédicacée et qui s'appelle Le pilote aux deux visages. C'est une bande dessinée très sympa avec une enquête policière, peut-être pas très élaboré, mais on prend surtout plaisir à observer les vignettes avec l'héroïne Margot dans des situations un peu cocasses et bien évidemment les dessins des voitures qui ont une place très importante. J'ai apprécié particulièrement les explications à la fin de la bande dessinée sur la Fiat 500. Ça a été donc un très bon moment de lecture. Donc moi j'ai préféré prendre Le pilote aux deux visages, mais ce n'est pas le premier numéro où l'on retrouve donc cette jeune enquêtrice, journaliste qui est Margot et qui est donc une certaine héritière de Tintin. Voilà, mais on prend plaisir à regarder donc les vignettes, puisqu'on voit la plastique irréprochable de Margot. Et en plus de ça, on a donc de belles voitures de collection qui sont destinées. Je vous lis juste le début. Donc, l'histoire se passe en mai 1962 sur une plage de Toscane. « Oh loulou, on peut dire que vous savez vous y prendre avec les femmes. Plaît-il ? J'avoue que vous avez mis les petits plats dans les grands pour vous faire pardonner d'avoir retardé de presque un an notre voyage de noces. Mais c'est tout naturel, ma chérie. L'hôtel de luxe, la Ferrari, cette plage paradisiaque et sauvage épargnée de l'empreinte de l'homme. Aïe ! Quelque chose m'a piqué le pied. Ça alors, il y a une plaque de métal sous l'eau. Mais c'est une portière. Quelle perspicacité, loulou chérie, je dirais même une portière de Fiat 500. Avec cette bande rouge et ce numéro, ce doit être un modèle de rallye. Vous êtes impayable, ma bien-aimée. Ce n'est pas un coquillage que vous ramenez de la plage, mais une pièce automobile, une déformation professionnelle, sans doute. Oui, parce que Margot est journaliste dans le milieu automobile. Oh, Louis, cessez de vous moquer. Un autre intrus arrive. C'est sans doute la tempête de cette nuit qui a brassé le fond. Allons voir ça de plus près. Eh bien, mon amour, je vois que nous avons les mêmes vis. Point de coquillage, mais une vieille roue pour vous, monsieur l'ingénieur en pneumatique. Un peu facile, mais il est vrai que j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Dans l'état où il est, on voit qu'il n'a pas été conçu par Michelin. Je pense surtout que ce pneu a éclaté après avoir subi un choc. Un trou comme ça ne peut pas être dû à un problème de fabrication. Vous croyez ? Cet impact ressemble à un tir d'arme à feu. Étrange, que peut bien faire cette roue ici ? Voilà, c'était un extrait donc de la bande dessinée d'Olivier Marin et Calix, le pilote aux deux visages.
Vous êtes sur Radio B et vous écoutez Idéalire.
Eh bien, après avoir vu donc cette bande dessinée, le pilote aux deux visages, je vais maintenant vous faire écouter l'interview que j'ai réalisée de Monsieur Vernoux, qui était l'organisateur du festival de bande dessinée à Viria. Nous allons écouter comment il a pu mettre en place ce festival, ce qu'on trouvait lors de ce festival. Et je vous assure que j'y ai passé beaucoup de temps. Il y en avait vraiment pour tous les âges. Et ça a été vraiment un succès. On trouvait aussi bien de la bande dessinée d'occasion que du livre neuf. Et avec la possibilité donc de faire dédicacer ces ouvrages par les auteurs qui étaient présents. Un vrai moment donc de complicité avec donc les illustrateurs qui étaient sur place.
Je me retrouve maintenant au festival Bulle-en-Bresse à Viria avec Monsieur Vernoux qui est l'organisateur de la manifestation. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Alors vous avez organisé donc ce festival de bande dessinée sur deux jours. Combien est-ce que d'auteurs ont répondu présents à cette manifestation ?
Alors c'est une première édition, on a eu 19 auteurs, enfin 18 auteurs BD plus un auteur qui fait des ouvrages sur la BD.
Nous sommes à la fin de cet événement, est-ce que vous êtes satisfait de l'affluence autour du festival ?
On aimerait toujours avoir plus de personnes, mais quand même pour une première édition c'est quand même très bien.
Très bien. Autour de vous, vous avez eu, je suppose, pas mal de gens pour vous aider, vous pouvez nous parler un peu de votre équipe ?
Alors, il y a le bureau déjà, on est à peu près 5 personnes. Et ensuite, il y a une dizaine de bénévoles qui, à degrés divers et à compétences diverses, nous a épaulés pour ce festival.
Vous avez travaillé plus avec des maisons d'édition ou vous êtes adressé directement aux auteurs ?
Alors, non. Nous, on a l'essentiel des auteurs qu'on a réussi à convaincre de venir. Sont des auteurs qu'on a contactés directement, soit en festival, soit par courrier, soit par téléphone. En passant par les maisons d'édition, c'est assez compliqué, ça n'a pas été facile. Mais on a quand même réussi à avoir un plateau pour une première qui est quand même sympa, et avec un nombre quand même intéressant d'auteurs.
D'accord. Et vous, dans la vie, votre vie aussi marquée par la bande dessinée ?
Comme tout le monde, hein, moi, dans l'enfance, j'ai beaucoup lu de bande dessinée. Après, ça s'est passé en grandissant, mais je suis revenu à la BD à travers mon métier il y a une vingtaine d'années. Et encore davantage, il y a 10 ans, où j'ai décidé de me lancer plus largement dans la vente de la BD.
D'accord, très bien. C'est-à-dire que donc vous faites le métier de bouquiniste, c'est ça ?
Voilà, depuis à peu près plus de 20 ans, bientôt 25 ans, je suis bouquiniste. Hein, donc j'achète et je vends des livres d'occasion. Et des disques d'occasion également. Et donc je fais ça depuis plus de 20 ans. Et depuis de 10 ans, j'ai décidé de me spécialiser davantage dans la BD.
D'accord. Je vois qu'il y a un principe, une affiche en fait à l'entrée qui m'interpelle. Une entrée égale 3 bandes dessinées à amener. Qu'est-ce que c'est ça ?
Alors, l'idée est simple, c'est que l'objectif d'un festival, c'est de faire découvrir la bande dessinée. Donc les gens qui viendraient avec des valises remplies de livres, qui prendraient dans la bibliothèque pour les faire signer aux auteurs, c'est pas le public qu'on cherche en priorité. On va plutôt essayer de chercher un public de néophytes ou d'amateurs un peu éclairés, mais qui viendraient donc au festival, acheter sa, découvrir une BD et avoir envie de la faire dédicacer à un auteur.
D'accord, donc l'idée vraiment, c'est pour ça que vous avez associé Cultura à cet événement ?
Bah, Cultura, il nous fallait un libraire, et c'est Cultura qui nous a fait la meilleure proposition suite à nos entretiens.
D'accord, très bien. Donc là, vous avez la plupart des œuvres, je suppose, des auteurs présents ?
Absolument. Alors certains auteurs, hein, s'ils sont débutants, donc ils ont peu de choses à proposer, donc c'est on va proposer l'ensemble de leurs œuvres. Pardon, d'autres auteurs qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire 57 ans de carrière comme Jean-Yves Miton, évidemment tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière ne peut pas être là. Donc il faut bien faire un tri, un choix parmi ce qu'ils ont fait.
Alors moi qui n'ai pas encore découvert vraiment l'intérieur de votre festival, en fonction des auteurs de bandes dessinées, je vais pouvoir aborder quelles thématiques ?
La BD maintenant c'est très large, hein. C'est fini la BD des années 50-60 où c'était l'humour, l'aventure, le western, enfin qui rejoint l'aventure, c'était un peu limité à ça. Maintenant tous les aspects de la vie au quotidien sont abordés dans la bande dessinée, hein. La politique, l'économie, l'écologie, le féminisme, je sais pas moi, des tas de choses, tout est abordé, hein. Donc pour notre festival qui est jeune, c'est vrai qu'on a quand même mis l'accent sur ce qu'on appelle BD jeunesse, parce que ça reste le public le plus intéressant, le public qu'on a envie de conquérir, quoi. Mais y a tout, on trouve tout en BD maintenant.
D'accord. Il me semble aussi que vous avez lancé un concours,
oui,
à destination, il me semble, peut-être des scolaires, en tout cas des jeunes.
Oui.
Vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Alors, c'est un concours BD qui a été ouvert aux écoles primaires, y compris la 6e, à toutes les écoles de la zone CA3B. Bon, malheureusement, le concours a été lancé pour cette première édition un petit peu tardivement, donc il y a eu un retour faible. Mais bon, pour la prochaine édition, on va s'y prendre bien en amont et je pense que là, on aura davantage d'offres de dessins, ça sera plus intéressant.
D'accord. L'idée, c'était de partir sur quel type de sujet ?
Au niveau
c'était une suite de textes par rapport à des vignettes.
Au niveau du concours ?
Oui.
Non, c'est très simple. On est en Bresse, donc on est parti sur la ferme bressane. Comme des concours, c'est une idée simple pour les enfants. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans une cour, dans une ferme, pardon.
D'accord, très bien. Non, je m'y intéresse beaucoup parce que ce sont des choses finalement qui amènent la jeunesse à se tourner vers la bande dessinée, même si elle se tourne souvent sur... elle se dirige en général vraiment sur les mangas. Et y a-t-il une part de manga dans votre festival ?
Non, alors là, on n'a pas d'auteur manga, on a un petit peu de bouquinistes qui vendent des mangas, mais ce n'est pas notre cœur d'activité. Moi, je n'ai pas la culture manga. Moi, j'ai appris dans les BD classiques, hein. Mais bon, après, on ne sait pas, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, le tournant que prendra le festival, hein, peut-être qu'il y aura davantage de mangas, mais c'est vrai que ce n'est pas l'objectif premier, d'autant que les festivals manga, spécifiquement manga, sont très 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 performants, et donc ils savent très bien faire les choses, et je pense qu'il faut un peu rester dans son domaine, le manga étant une partie de la bande dessinée.
D'accord, très bien. Autre chose, je vois que sur votre affiche, donc, on retrouve effectivement une ferme à colombage. Ouais. Est-ce que vous avez essayé de nous dénicher des auteurs locaux ?
Alors, celui qui a fait l'affiche, hein, c'est Olivier Marin, qui est un auteur local, dont la notoriété est internationale. Voilà, il n'y avait pas mieux comme auteur à dénicher.
Oh, très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et on souhaite longue vie donc à ce festival de la bande dessinée en Bresse, Bulle en Bresse, donc qui aura lieu chaque fois en fin septembre.
Voilà. L'idée, c'est de rester stable sur une date. Donc, le dernier week-end de septembre, ça me semble une bonne date. Et donc, on va essayer de chaque année renouveler le festival à cette date.
Très bien, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez consacré, Monsieur Vernoux, et puis donc à l'année prochaine pour une nouvelle édition de Bulle en Bresse. Merci.
Merci, bonne journée.
Notre émission est maintenant terminée pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les différents moments de convivialité que nous avons pu trouver avec Rachel qui venait nous parler de la foire bio et avec Monsieur Vernoux qui a évoqué donc pour nous le festival de la bande dessinée de Viria. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection de mes coups de cœur. En attendant, l'émission étant podcastée sur notre site www.radio-b.fr, vous pouvez donc me retrouver sur ce média-là. Et en attendant, bonne lecture à vous. Retrouvez l'émission sur notre site radio-b.fr puisque l'émission est podcastée et sinon en rediffusion dimanche. À bientôt !